Sun Radio présente
Star Sun. Star Sun.
Killy Bond vous retrouve pour ce deuxième numéro de Star Sun sur votre station de radio préférée Sun Radio, bien évidemment, et sur votre fréquence 96.6 FM à Gérard Merveille. Alors, petit rappel tout de même avant d'accueillir notre nouvel invité. Alors, qu'est-ce que Star Sun ? C'est l'occasion unique de découvrir un artiste du milieu cinématographique, son histoire, ses envies, ses projets, ainsi que d'entendre en direct dans cette émission un script d'un de ses propres films. Alors, de quelle manière me direz-vous ? Eh bien, avec la présence exceptionnelle du producteur en question dans cette émission. Et pour ce numéro, j'ai l'honneur d'accueillir le talentueux producteur Michael Guillaume. Bonjour Michael, je suis ravi de t'accueillir ici même, comment vas-tu ?
Bonjour, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Ça va très très bien, je suis prêt à discuter avec toi de mon personnage complexe, de mes sociétés.
On va attaquer les hostilités d'entrée de jeu si tu veux bien, Michael, car il y a beaucoup de choses à dire sur tes sociétés. En quelques années, ta société de production, plutôt discrète au départ, est devenue un vaste réseau tentaculaire, on va dire, de sociétés diverses. Peux-tu brièvement nous présenter tes différentes activités pour que ce soit bien clair pour tout le monde ?
Concrètement, Michael Group, deux pôles bien précis, c'est le pôle média avec Michael Prod et Michael Prod TV. Et un pôle compétition avec toutes les équipes de formules que je ne peux gérer. Donc la F74, la F2 et le CIUS. En plus, il y a aussi Milcar, il y a MyTech et MG Academy.
Alors, il ne faut surtout pas oublier que tu viens au départ de San Francisco et ta société Michael Prod s'est rapidement impliquée dans la vie san-franciscaine à l'époque et bien entendu Gérard Merveilleuse maintenant. Alors, est-ce un choix dès le départ ou as-tu, au fur et à mesure, décidé de te diversifier ?
Alors, je ne vais pas dire que c'était un choix au départ. Je suis arrivé sur Cineju Island, je ne savais pas du tout où aller, hein. Je ne savais pas quoi faire et j'ai vu un peu tout ce qui se passait. J'ai fait un tour à Gérard Merveille, j'ai fait un tour à Fundance, j'ai fait un tour un peu de partout. Puis finalement, je me suis dit, je vais m'installer à San Francisco histoire de débuter, de comprendre les rouages du cinéma, parce que je ne viens pas du tout de ce domaine, de comprendre un peu quelle façon on pourrait avancer ou quoi que ce soit. Donc j'ai débuté, j'ai fait mes armes, j'ai essayé de prouver que je pouvais être un bon élément. Et après, au fur et à mesure du temps, je me suis impliqué dans la vie Gérard Merveilleuse. Alors, c'est vrai qu'on est venu un peu me chercher aussi, je ne vais pas le nier. On est venu me chercher pour que je puisse venir un peu dans la ville. Mais c'est vrai que le choix de San Francisco s'est fait un peu par défaut parce que je me suis dit qu'il y allait étape par étape. Et que finalement, si je n'y allais pas dans une ville un peu plus petite, je pense que je n'aurais pas réussi comme j'ai réussi aujourd'hui à Gérard Merveilleuse.
Alors, ton histoire, Michael, est assez étonnante puisqu'on peut considérer que tu es une personne plutôt complexe. Multicarte, et on peut remarquer effectivement que tu semblais plutôt destiné à travailler pour les autres au départ. J'en veux pour preuve notamment ta collaboration régulière avec la JCP Prod, ainsi également via la création de la Michael Prod TV, avant finalement de créer ta propre société de production en 2027, soit 2 ans après tes débuts. Pourquoi avoir tardé à ce point ?
Alors comme je te disais auparavant, je voulais y aller étape par étape. Alors c'est vrai que j'ai commencé à Gérard Merveille avec Gérard Cousin, qui est un ami, j'ai écrit des films. C'est totalement normal, c'est comme ça qu'on commence, je pense. Hein. Je voulais pas commencer par une société de production en me disant je vais faire une société de production, je vais voir ce que ça donne. Non, je voulais vraiment d'abord me faire un nom, ce qui était très important. Après, j'ai pas travaillé que pour Gérard non plus. J'ai travaillé pour Morcar dans un Mark Reed, j'ai travaillé pour Blizzard sur un Red One. Donc c'est vrai qu'on est venu me chercher assez souvent et c'est là que j'ai pris un peu la confiance, si je puis dire, et que je me suis dit il faudra que je fasse la société de production. Alors, c'est vrai, j'ai mis du temps. J'ai fait Michael Prod TV d'abord parce que le projet Fire TV est arrivé. Fire TV, donc via Nicolas Power, lui me contactait pour me demander si je pouvais faire des programmes pour lui. Donc j'ai dit oui, hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que c'est plus mon domaine, la télévision. Donc c'est vrai que j'ai fait des programmes pour lui. C'est un buzz, j'ai fait Entre Amis, il y a toutes sortes de programmes, Examinator, bon bref. J'ai fait de nombreux programmes et j'ai fait des séries aussi, puisque j'ai fait Can't Stop the Music, j'ai fait... Baxter, voilà, j'ai fait d'autres programmes et c'est vrai que je pense que c'était mieux aussi que je commence comme ça. Comme ça, on savait au moins qui j'étais. Tout le monde sait que je suis quelqu'un qui touche à tout. Donc voilà. Après, c'est vrai que Michael Prod est arrivé un peu sous l'élan de mon frère qui m'a dit vas-y, il faudrait peut-être te lancer un jour parce que sinon tu n'y arriveras jamais. Donc ça, je me suis lancé et finalement, je ne suis pas déçu d'avoir attendu parce que ça m'a donné un pouvoir, ça m'a donné une base solide pour justement avancer encore plus.
Alors, les 3 années qui ont suivi la création de la Michael Prod à Gérard Merveille, donc les années 2028, 2029 et 2030, marquent une volonté forte de ta part pour marquer les esprits des producteurs et le public Gérard Merveilleux. Tu sors au moins une quinzaine de films pendant ces années-là. Quel était ton état d'esprit à l'époque? Souhaitais-tu prouver quelque chose?
On va dire que mon état d'esprit était simple, c'est que je voulais déjà me faire plaisir. Déjà, c'était la base. Je ne fais pas une société, bon certes, c'est un business, hein, faut pas se leurrer, mais je voulais faire plaisir avant. Donc j'ai sorti des films qui m'ont fait plaisir, j'ai écrit des films qui m'ont fait plaisir, j'ai participé à des projets qui m'ont fait plaisir. Donc je pense que concrètement, c'était la motivation principale. Après, je vais pas te cacher, hein, on l'a vu très souvent avec mes coups de gueule, je vise une place, c'était la première. Je voulais montrer que je pouvais être là, présent, que je pouvais réussir, que je pouvais même essayer de battre des grandes sociétés, parce que c'est vrai que battre Gérard Cousin, Borcar ou encore Pitbull, bah, franchement, c'est des sociétés qui ont tellement un passif que les battre, bah, c'est comme si on se battait contre Goliath. Moi, je suis un tout petit, j'arrive avec mes petits textes, avec mes petits films, avec mes petits projets. Et mon but, c'était vraiment de montrer que, ben, avec mes petits projets, ben, je pouvais peut-être rivaliser avec les grands. Voilà, en gros, c'est vraiment ce que j'ai voulu montrer aussi. Mais la principale motivation, ça a été vraiment le plaisir de pouvoir écrire ce que je voulais quand je voulais.
Alors, Mickaël, tu es aussi connu pour ta prise de position sur certains sujets, notamment sur les retours attendus lors de certains GM Awards il y a quelques années. On peut comprendre certaines contrariétés puisque tu étais dans le peloton de tête lors de ces fameuses années et tu n'as pas eu le succès escompté. Quel est ton ressenti avec le recul que tu peux avoir maintenant ?
Ah oui, je pense que tu fais état de ce que j'ai pu dire lors des GM Awards de 2029. Alors, avec le recul, honnêtement, je pense que mon coup de gueule est quand même justifié parce que c'est vrai que, on dira ce qu'on voudra, j'avais fait une grosse année, je m'étais investi à pratiquement à 200%. Et c'est vrai que ne pas avoir le résultat escompté, c'est vrai que ça m'a un peu refroidi. Après, je ne dirais pas que c'était totalement con, hein. Il y a une partie de connerie parce que c'est normal. On réagit sous la pulsion, on réagit sous l'émotion. Et voilà, mais dans un sens, je me dis que mon coup de gueule a quand même été justifié. Je l'ai exprimé, j'ai expliqué après dans la presse pourquoi. Aujourd'hui, je pourrais refaire le même coup de gueule dans le même genre de situation. C'est vraiment de dire que ben, des fois, il y a des injustices et il faut savoir les dire. Alors c'est vrai que j'ai un peu la tendance à avoir une grande gueule. Gérard pourra vous prouver parce que c'est vrai que quand on se parle tous les deux, c'est un peu tendu des fois. Mais voilà, j'ai la réputation d'avoir une grande gueule, j'ai la réputation de dire ce que je pense. Et voilà, et ce jour-là, j'ai dit vraiment ce que je pensais parce que c'était comme je le pensais.
Enfin, ta société semble avoir passé un cap en 2031, de par ton rapprochement avec Gérard Cousin Prod. Ton implication dans le milieu sportif et automobile se fait toujours aussi forte comme celle dans Fire TV. Comment s'est passée ta rencontre avec le fameux producteur de Baltimore pour en être arrivé à un tel degré de coopération ?
Bon, je vais dire tout simplement, on s'est aperçu, je crois, lors d'un gala ou d'une soirée. On a sympathisé. Hein, on a bien parlé, voilà, et puis finalement, au fur et à mesure des choses, des jours, ça s'est fait. Voilà, il n'y a pas de mystère, j'ai envie de dire, hein. ça a bien collé, et voilà, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très amis, on coopère énormément, pour Mickaël Prod surtout. Après, tout ce qui concerne Fire TV, c'est un autre domaine, hein. On fait quelques coproductions, mais là-dessus, on n'est pas trop dans le même bateau, on va dire, hein. On fait chacun nos programmes. Après, tout ce qui concerne l'automobile, ben, Gérard est très très peu impliqué dans l'automobile via, si on voit les équipes, hein, c'est pas d'équipe à lui, il y a des amis à lui qui ont des équipes, ça c'est sûr, mais il n'y a pas d'équipe à lui. Donc voilà, non, on est devenus très amis, on collabore bien, on cherche pas non plus à se nuire, hein, c'est une compétition, d'accord, enfin une compétition, je m'entends, hein, dans le sens qu'il faut arriver en tête du box-office. Mais ça ne nous empêche pas d'être amis, de porter coup ensemble, de manger ensemble, de tout ça. Hein. Ça nous... Notre but, c'est vraiment d'être de bons amis, tant devant les caméras qu'en dehors des caméras.
Merci Mickaël pour toutes ces premières réponses. Je vous propose maintenant, chers auditeurs, de laisser la parole à Mickaël Guillaume, donc notre invité, qui a donc choisi un script de son choix et nous faire la lecture. Mickaël, nous t'écoutons.
Alors, j'ai choisi Stradivarius. Pourquoi ? Parce que je me suis éclaté à l'écrire. C'est vrai que j'ai beaucoup rigolé quand j'ai écrit le texte. Donc voilà, je voulais partager avec vous avec un ton un peu différent. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui parlera d'un homme, d'une femme, d'un nain de jardin unijambiste à qui il manque son chapeau, de la faim dans le monde qui tue des milliers de gens, mais réserve les gros, des politiciens qui se croient au-dessus de tout et sont finalement en dessous de leur popularité, et de ces sportifs qui n'hésitent pas à se taper des filles plus refaites les unes que les autres pour faire croire qu'ils en ont une plus grosse que celle de leurs voisins. Le lien entre ça et notre histoire, il n'y en a pas. Mais on trouvait ça pas de dénoncer gratuitement. La nuit tombe à Gérard Merveille. Le palais d'Orient s'illumine de mille éclats, comme si nous étions en plein jour. Il est 15h de l'après-midi. Les gens arrivent devant le palais pour assister à cette représentation unique à l'affiche depuis 15 jours de Stradivarius, traduisé par Perth Divary. Ce grand homme de spectacle est écrit exceptionnellement dans la ville pour montrer son nouveau spectacle en couleur, comme on peut le voir avec les plumes qu'il y a à chaque siège et que les spectateurs devront mettre à leurs fesses. Mais aussi, et c'est là le plus malheureux, c'est le dernier spectacle de l'homme qui a décidé de tout arrêter pour la 67e fois de sa carrière. Les places sont chères. Tout le monde souhaite être présent pour l'apothéose et seules 1000 personnes auront l'immense privilège de voir Peter se donner une dernière fois sur scène. Peter, justement, est en coulisses. Il est seul avec sa prose. Sa femme, enfin l'une de ses femmes, puisque tout le monde se rappelle des unes du journal Popolerie, Peter les a toutes faites avec une femme différente. Ou alors toujours la même, mais cette dernière était refaite à chaque fois. Bref, passons, le détail est peu important pour la suite de l'histoire. Peter se rince la voix et mouille sa gorge. Il se prépare à monter sur scène, il arrive devant les marches et il les monte et se pose devant les spectateurs, toujours aussi nombreux. Le spot l'aveugle, il s'étonne de ne pas entendre d'applaudissements, de voix stridentes, ne pas sentir un soutien-gorge ou un string tout mouillé sur lui. Il s'avance sur le devant de la scène et glisse. Il tombe à la renverse dans une malle. Personne ne réagit. Il se relève, habillé avec un chapeau bizarre et une barbe. Il revient sur scène. « Cher Gérard cousin, cher Gérard merveilleux, et cher autre qui n'avait pas Gérard dans votre prénom, alors que l'humour continue ses mensonges impérialistes concernant les pressions imaginaires qui se goûterait le tropico, je voudrais surtout dire aux alcoolos du monde entier que s'empire le vin et il fait tout ce qu'il peut pour solidifier son système de décantation. » Le projecteur s'éteint et Pister constate que la salle est vide. Il se regarde dans un morceau de miroir, l'accoutrement dans lequel il est. On dirait le président latino. Il enlève son déguisement et se prépare pour son spectacle. Nous sommes le soir, car il fait nuit, parce que le ciel n'est plus bleu ciel comme les yeux de Rasmussen, mais parce qu'il est bleu nuit, ce qui signifie qu'il fait nuit, parce que... Enfin bref. Peter fait son spectacle devant une salle comble. Il joue, chante, fait la comédie, fait de la musique, des cascades. Il se donne pendant moins d'une heure pour son public. Mais soudainement, un homme se lève dans la salle peu de temps avant la standing ovation. Cet homme attire l'attention de Peter. Pourquoi ? Parce que son ombre ne ressemble pas à la silhouette de l'homme. L'ombre a une cape, alors que l'homme a une coupe de merde. Cet homme disparaît derrière la porte de sortie du palais. Peter reste coincé sur cette porte, l'homme, lui, ayant fait forte impression. Peter quitte la scène et rejoint sa femme. Il se débarbouille, mange un petit pot, carotte, bœuf et boit un verre d'eau. Alors qu'il quitte le palais par derrière, car il trouve ça plus excitant, une femme surgit. Peter hurle comme dans un film d'horreur, avec une voix de petite fille. En regardant plus bas, il voit une petite fille hurler. Il la pousse et se remet à hurler. La jeune femme, jolie, fraîche, propre et disposant de bonnes situations, pour ne pas laisser de marques blanches sur ses vêtements noirs, lui met un doigt sur la bouche pour le faire taire. Peter la regarde. « Vous n'avez pas un problème avec votre maquillage ? On dirait que vous avez passé un coup de rouleau de peinture sur vos yeux. » La femme ne comprend pas. Elle prend son miroir de poche, se regarde et hurle à son tour. Elle demande une minute à Peter et revient avec un maquillage parfait. « Je suis ici pour vous annoncer qu'un terrible malheur se prépare. Ne vous inquiétez pas, ma petite, je reviendrai sur scène un jour. Faut pas vous en faire. » « Vous ne comprenez pas, vous allez avoir un malheur. Si maintenant, même l'heure va mal, où va le monde ? C'est pas vrai, toi, avoir des problèmes bientôt. » Peter écarte la jeune femme, monte dans sa voiture, démarre et part.
Merci beaucoup, Mickaël, et j'espère que ce moment de lecture privilégiée vous aura franchement plu. Ce film Stradivarius était donc sorti le 25 janvier 2031, et il annonçait une nouvelle phase dans l'histoire de la société de la Mickaël Prod, puisqu'à la surprise générale, Maurizio Gira, réalisateur et scénariste emblématique chez la JCP Prod, et que l'on connaissait plutôt recentré sur lui-même, même s'il est quelqu'un d'hyperactif, devient le directeur de ta société. Très clairement, il semblerait que ta politique de production de films change de rythme, privilégiant un nombre de sorties de films plus restreint, mais à contrario plus travaillé, et à tous les niveaux, script comme les affiches. Peux-tu nous donner quelques détails sur les négociations mises en jeu à cette période et comment tu as pu convaincre Maurizio Gira de rejoindre la direction de ta société ?
Alors, Maurizio, ça n'a pas été trop difficile de le convaincre. On a eu 3 entretiens, pour être honnête. On s'est vu 3 fois, on en a parlé, et finalement, on a accepté le challenge ensemble. Alors, concrètement, j'ai expliqué ce qui s'est passé à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai décidé de vendre une partie de ma société. Donc Gérard Cousin a pris une participation et Gérard aussi. En fait, si j'ai fait ce choix, c'est parce que je voulais pertinemment faire évoluer la société. Faire évoluer la société, c'était obligatoirement passer par un nouveau souffle, une nouvelle direction. Et donc forcément, ça passait par l'arrivée de Maurizio Girard à la place de Mark Owens. Et voilà, Mark Owens qui prenait une place un peu plus importante dans la société. Donc voilà, donc non, ça s'est fait tout naturellement, on en a parlé. Et il a été d'accord de prendre ce rôle. Qu'il tient très très bien, voilà, donc du coup je suis fier de l'avoir dans mon équipe, je suis fier de ce qu'il fait et j'espère qu'il restera avec moi dans très 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 longtemps. Déjà je peux vous annoncer qu'il a re-signé pour 2 années supplémentaires, donc on le verra encore quelques temps.
Toujours est-il que ce revirement porte ses fruits puisque de nouveau, la Michael Prod se retrouve numéro 1 du classement des sociétés de production lors de l'année 2031. Je reviens également quelques instants sur un homme de valeur pour toi Michael, il s'agit en fait de Mark Owens. Peux-tu nous parler un peu de ce coéquipier important pour toi? Que t'a-t-il vraiment apporté? Puisqu'on peut parler, je pense, de l'ère Owens au sein de la Michael Prod à un moment donné.
Ah oui, on peut parler de l'ère Owens, ça je confirme pertinemment, j'en suis convaincu. Mark Owens, en fait, a apporté vraiment quelque chose que je n'avais pas, c'est-à-dire du professionnalisme et surtout du savoir. Il a pris les rênes de Michael Prod, parce que c'est vrai qu'il faut avouer quand même que enfin, beaucoup de sociétés, ce n'est pas forcément très simple à gérer. Et du coup, il a pris la société en main, il a fait ce qu'il voulait, hein, il avait totalement carte blanche, et du coup, il a fait plein de projets qui ont porté leurs fruits. Alors oui, donc c'est un binôme très important pour moi, il l'est encore aujourd'hui. On s'est un peu liés d'amitié, voilà, et tout s'est fait, alors je vais expliquer quand même l'histoire, hein, parce que tout s'est fait à partir d'une série, puisqu'il a joué pour moi dans une série à l'époque, et donc du coup, voilà, on a sympathisé, et puis voilà, je cherchais quelqu'un du métier, cherchais quelqu'un de valeur pour ce genre de travail, et j'ai trouvé qu'il était le candidat parfait pour ce poste.
Alors Michael, tu prônes un esprit de famille au sein de l'entité Michael Group, très bien décrit d'ailleurs dans le documentaire sorti le 12 septembre 2031, Le monde Gérard Merveilleux de la Michael Prod. Cet esprit est-il toujours là, même maintenant, étant donné que l'on te voit moins, ou disons plus en retrait?
Alors bien sûr, oui, l'esprit reste le même. C'est pas parce que je ne sors plus autant de films, que je ne suis plus autant présent, quoi que ce soit, qu'il n'y a pas cette dimension familiale. Avec tous les acteurs, tous les réalisateurs, même mon staff en général, c'est vrai qu'on est toujours ensemble. Ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment que tout le monde se voit, puisque toutes mes sociétés sont gérées à un même endroit. Hein, voilà, donc la Michael Prod a ses bureaux à côté de l'équipe LVF74 et tout ça. Donc il y a vraiment un aspect familial que j'ai voulu mettre et que je continue à mettre. Et du coup, voilà, je suis heureux de voir que tout ça fonctionne encore, que certains acteurs sont encore, proches de nous. Parce que c'est vrai que Linda Marshall, même si elle a pris sa retraite, continue à venir nous voir. On a aussi Simon Meyer qui a participé récemment à Stars on the Dance Floor, donc qui était présent et qui reste présent pour nous. Voilà, en fait, je veux dire que vraiment, c'est pas parce qu'on est un peu en retrait que l'esprit qu'on a mis autour d'une société n'est pas présent encore.
Alors, sauf erreur de ma part, il ne me semble pas t'avoir vu participer à une franchise commune à ce jour. Par contre, les collaborations, elles, ont toujours été présentes. Tu préfères donc ce genre de projet que d'apporter ta pierre à un projet commun au sein de la ville?
Ah, c'est une question piège, ça. Non, alors en fait, si je participe à une franchise commune, c'est parce que déjà, le temps ne me permet pas. Enfin, c'est surtout aussi que ce genre de franchise ne m'intéresse pas. Alors, je n'ai rien contre eux, hein, parce que c'est vrai que certaines franchises sont très très intéressantes, mais elles ne m'intéressent pas et je ne me prends pas l'idée d'écrire pour elles pour plaisir. En fait, voilà, c'est que je me dirais, j'ai créé cette franchise par contrainte et je n'ai pas envie. Donc du coup, je me dis que c'est peut-être mieux de faire quelques collaborations, parce que c'est vrai que quand je propose une collaboration, en général, c'est une idée que j'ai, donc j'ai cette idée d'écrire ça, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Plutôt que de me dire, on va me proposer une thématique, hein, voilà, donc Western Union ou je ne sais quelle franchise, et du coup, voilà, je pense que ça serait pas fandard pour moi, ce serait vraiment une contrainte, et j'ai pas envie de ça.
Quels sont tes projets cinématographiques actuellement?
Alors, comme on a pu le voir, je suis revenu un peu doucement, il y a eu L'Équilibre qui est sorti, il y a Dernière Confession avant la fin du monde aussi. Actuellement, le gros projet, c'est Michel Vaillant, le deuxième opus. Voilà, on a décidé avec Maurizio Girard de lancer ce deuxième opus. Après, il n'y a pas de projet totalement défini encore. On a un projet, si, allez, pour faire une petite exclu, on a un projet de film un peu action qui est en cours, dont l'actrice principale sera Gaia Williams. Normalement, on est encore négocié, non, ça pourrait se faire, je croise les doigts. Donc voilà, mais après, sinon, on n'a pas de projet comme on pouvait avoir dans le temps, en se disant, ben, à une échéance de 6 mois, on pourra voir tel film qui va sortir. Pour l'instant, on ne sait pas, on vit un peu au jour le jour, on se donne pas de pression en fait, voilà, c'est surtout ça.
Et enfin, Mickaël, pour en finir, comment vois-tu ton avenir professionnel et personnel? Quel est ton degré d'implication dans tes sociétés à ce jour? D'un point de vue personnel maintenant, comment vont tes proches, ton frère Loïc, que devient-il? Ton épouse et tes deux enfants?
Alors d'abord, c'est un enfant. Voilà, c'est juste un enfant pour l'instant. Concrètement, mon degré d'implication dans les sociétés? Je suis toujours à la tête, faut pas croire. C'est pas parce que j'ai des directeurs que je ne suis pas à la tête, je gère quand même. Donc voilà, bon, après j'ai la FACI aussi à gérer, la Fédération Automobile de Ciné-Jeune. Donc voilà, mais je suis toujours à la tête, je chapeaute tout, je fais confiance à mes directeurs, certes, mais je suis toujours là pour dire oui ou non. Voilà, mes proches, ça va très très bien, mon frère Loïc est toujours pas loin, il suit sa fille avec impatience dans le championnat de F74. Il va même peut-être prochainement avoir un rôle important dans ce domaine. On est en train de discuter, voilà, c'est pour ça que je ne vous dis rien. Après, ma femme va très bien, voilà, ma petite fille va très bien. Il n'y a rien de mauvais, on va dire, là-dedans. Après, où est-ce que je me vois à l'avenir? Franchement, je ne sais pas. Je souhaite qu'une chose, honnêtement, c'est que tout continue. Que la F74 continue, que les projets sur Fire TV continuent aussi, puisque c'est vrai que je mets beaucoup de cœur à faire ces projets. J'espère que Sambuzz continuera, voilà, parce que bon, c'est une émission quand même qui me tient à cœur. J'espère que Dans l'Intimité 2 aussi continuera, qu'on aura de plus en plus d'invités. C'est vrai que c'est assez compliqué pour en avoir actuellement. Voilà, j'espère beaucoup de choses. J'espère que Mickaël Prod continuera à produire un ou deux films par an. Pour le plaisir de tout le monde. J'espère juste continuer ce que je fais actuellement avec le même plaisir et j'espère surtout retrouver un peu cette étincelle pour essayer de sortir un troisième film par an, voilà, qui ferait plaisir à tout le monde, d'après ce que j'ai pu entendre. Voilà, en gros, ce que j'espère pour l'avenir.
Merci beaucoup, Mickaël, et pour toutes ces réponses qui auront permis, je l'espère, de te connaître et de connaître ton état d'esprit actuel. C'est vrai qu'il est sincèrement plus agréable d'entendre les propos d'un producteur, et c'est bien le but de cette émission, être plus proche des producteurs et du cinéma, Gérard Merveilleux, tout simplement. J'ai été sincèrement ravi de t'avoir rencontré, Mickaël. Les occasions sont relativement rares pour faire un bilan rapide, et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Quant à vous, chers auditeurs, il ne reste plus qu'à suivre la Mickaël Prod dans ses projets, et surtout, restez branchés sur Sun Radio. Je vous dis à très vite, ciao.